Vous écoutez, on lit pour vous.
Un outil pour mesurer les buttes de neige avec l'IA voit le jour. Un texte de Simon Gionnet, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir. Un entrepreneur de Montréal a confectionné un outil utilisant l'intelligence artificielle, IA, qui permet de mesurer la taille des buttes de neige dans les cours d'école du Québec, récemment visées par une limite controversée pour des raisons d'assurance. Son créateur, Guillaume Eckerle, a eu l'idée durant le temps des fêtes, quelques semaines à peine après la petite saga médiatique entourant les recommandations critiquées de l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec, URASQ, URASQ, sur la sécurité des buttes de neige dans les cours des écoles québécoises. L'URASQ, qui est l'assureur d'une grande partie du réseau de l'éducation, suggère notamment une hauteur de butte de 1,8 à 3 mètres, une pente d'environ 25 % ou, encore, des zones de récupération et d'attente délimitées. Ces recommandations avaient été jugées irréalistes et ingérables en décembre 2025 par André Bernier, le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, AQPDE. D'abord un peu pour rire, puis à l'initiative d'un ami travaillant dans les assurances, l'entrepreneur spécialisé en IA est venu à mettre au point en quelques heures un site web permettant de mesurer la hauteur d'une butte de neige à partir d'une photo analysée par l'assistant IA Gemini. Le résultat, soit le site checkmabutte.ca, permet en quelques clics d'obtenir une estimation de la taille de la butte photographiée, de sa pente et des éléments environnants, le tout accompagné de recommandations pour rendre l'espace plus sécuritaire. Le Devoir a testé quelques images, dont l'une de notre photographe Valérian Mazzato, pour en observer le fonctionnement. M. Eckerle aspire à commercialiser cet outil, encore perfectible, qui pourrait répondre aux besoins du réseau de certaines commissions scolaires. Bien qu'il avoue avoir trouvé exagérées les recommandations sur les buts lorsqu'elles ont été rapportées dans les médias, il dit avoir réfléchi à la position des parents et fait valoir que la plateforme peut être utile en cas de blessures graves d'enfants, commotion cérébrale ou fracture, notamment en permettant aux parents d'intenter une action juridique si la taille de la butte où l'accident s'est produit dépassait la limite permise. À l'inverse, l'outil pourrait aussi permettre à l'école de se prémunir contre une poursuite en cas de limite de hauteur respectée. Ne craint-il pas de provoquer un effet pervers amenant les commissions scolaires à réduire davantage l'espace de jeu des élèves par risque de poursuites judiciaires ou, encore, en ajoutant une pression supplémentaire sur les enseignants qui surveillent tant bien que mal le chaos d'une cour d'école durant l'hiver? Guillaume Eckerle dit y avoir pensé, mais il estime que le risque de poursuite existait avant la création de son site Web. C'est plus un outil d'aide à la décision. Et ça permet aussi de rassurer tout le monde, à savoir si la mesure de la butte est la bonne. Questionné sur l'utilité et la logistique entourant le déploiement de cette technologie, il estime que la vraie réponse viendra du milieu de l'éducation. À ce sujet, il indique avoir contacté différentes commissions scolaires et être entré en contact avec deux d'entre elles. C'était « Un outil pour mesurer les buttes de neige avec l'IA, voit le jour ». Un texte de Simon Gionnet, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir.
L'enfant guéri, devenu pédiatre, un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 13 décembre 2025 dans la presse. Enfant, Maryse Racine a reçu un diagnostic de cancer rare. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, elle est médecin résidente en pédiatrie. Ce week-end, pour sa 14e participation aux 24 heures tremblantes, elle skiera en pensant à tous ses petits patients. Maryse Racine avait 8 ans quand elle a reçu un diagnostic de fibrome histiocytaire plexiforme. une tumeur solide qui atteint les tissus mous, raconte-t-elle à la presse. La recherche a quand même été utile pour moi. Le fait qu'il y ait eu des rapports de cas qui ont été publiés dans d'autres pays sur des tumeurs semblables, ça a aidé les oncologues à orienter le traitement, explique-t-elle. La tumeur était située sur sa paroi thoracique. Elle n'avait pas encore touché ses côtes, mais avait atteint ses muscles intercostaux, son petit pectoral, son grand pectoral et son tissu mammaire, elle qui n'avait évidemment pas encore de sein à cette époque. Maryse a été opérée une première fois afin de retirer la tumeur, mais celle-ci est revenue 3 mois plus tard. Je me souviens comme si c'était hier d'être dans l'auto et d'avoir demandé à mon père si j'allais mourir, dit-elle. Heureusement, la deuxième opération a été un succès. La petite fille est entrée en rémission, rémission qui a duré 10 ans. Tout s'est suivi, comme ces interventions chirurgicales ont été réalisées au CHU Sainte-Justine. Si Maryse n'a jamais vraiment craint que le cancer revienne, elle a dû composer à l'adolescence avec des problèmes de confiance en elle. C'est que, en retirant la tumeur, les médecins avaient dû enlever le tissu mammaire de son sein gauche. Je n'avais pas réalisé à 8 ans que j'avais perdu mon sein gauche et que je n'en aurais plus jamais pour la vie, dit-elle. C'est ça qui a été difficile à l'adolescence. Elle a donc subi, au fil des années, plusieurs opérations de reconstruction. La médecine et rien d'autre. Avant même son diagnostic, Maryse Racine était fascinée par l'univers hospitalier. Du haut de ses 4 ans, elle voulait être médecin. C'est sûr que de passer par là, ça a encore plus confirmé mon choix. Je ne me suis jamais posé de questions sur ma carrière. Au cégep, comme ses notes n'étaient pas assez élevées pour entrer en médecine, elle s'est tournée vers l'ergothérapie. Elle a finalement été acceptée en médecine à sa 4e année d'études. Et elle s'est spécialisée en pédiatrie, évidemment. Il y en a qui disent que la pédiatrie, c'est difficile et qu'ils ne feraient jamais ça. Pour moi, c'est plus facile qu'une personne âgée qui est toute seule à l'hôpital. Les enfants, c'est tellement résilient. L'innocence de l'enfance rend tellement ça plus facile d'affronter ces défis-là. Il y a moyen de les divertir, de les examiner en jouant. Âgée de 28 ans, Maryse Racine est résidente de 2e année à l'hôpital Sainte-Justine, là où, il y a 20 ans, elle était elle-même patiente. Elle se demande si elle souhaite se surspécialiser. Puisque tout est dans tout, elle considère le faire en hémato-oncologie pour soigner les enfants qui ont le cancer. Le fait d'avoir elle-même traversé ce que ses patients traversent aide la docteure Racine à comprendre le parcours, l'annonce du diagnostic et tout ce que ça implique dans une vie, dit-elle. Je pense que ça change mon approche avec les patients. Ça change vraiment des vies. Maryse Racine a découvert le 24 heures tremblant en 2009, lorsque son père y participait avec des amis. 3 ans plus tard, elle s'est jointe à l'équipe de la Fondation Charles Bruno, composée de jeunes ou de frères et sœurs de jeunes qui avaient été atteints d'un cancer. J'ai rencontré plein d'enfants parrainés aussi, auxquels je me suis attachée et que j'ai revus à l'extérieur du 24 heures. Des super belles histoires. Entre autres, il y a mon amie Émilie, avec qui j'ai commencé le 24 heures. On l'a fait 3 ans ensemble et elle est décédée en 2015. J'ai ramassé $12 840 cette année-là pour Émilie. La docteure Racine décrit le 24 heures tremblant comme le plus bel événement de collecte de fonds au Québec. Elle en est à sa 14e participation. Et maintenant, en tant que médecin, elle voit de ses yeux l'impact des fonds recueillis chaque année. Le 24 heures tremblant est écrit à plusieurs places à Sainte-Justine. Ça change vraiment des vies. Elle rappelle d'ailleurs que, si les taux de guérison de la leucémie sont de 95%, ce n'est pas le cas pour les autres types de cancers infantiles. C'est un enfant par jour au Québec qui est diagnostiqué d'un cancer. Et on en perd un par semaine environ. Maryse Racine skiera au sein de l'équipe guérison de la Fondation Charles Bruno. Elle skiera pour Zoé Lou, 2 ans, fille d'une de ses amies qui a reçu un diagnostic de maladie génétique rare à la naissance. Elle skiera pour tous ses patients, ceux qui se battent toujours et ceux qui ne sont plus là. C'était L'enfant guéri, devenu pédiatre, un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 13 décembre 2025 dans la presse.
L'argent du tabac à la rescousse des finances publiques du Québec. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 8 janvier 2026 dans Le Devoir. Depuis août 2025, les efforts du gouvernement du Québec pour réduire le déficit peuvent s'appuyer sur un allié insoupçonné, l'industrie du tabac. Au total, cette dernière doit lui verser 5 milliards de dollars au cours des prochaines années. Reste maintenant à savoir où ces fonds seront investis. L'argent provient d'une action collective intentée contre les grandes compagnies de tabac, Imperial Tobacco, Rothman, Benson & Hedges et McDonald's, pour tous les dommages qu'elles ont causés aux fumeurs et aux gouvernements qui ont payé pour les soigner ces dernières décennies. Lancée en 1998, la poursuite a connu un dénouement en 2025, par un arrangement prévoyant le versement de 24,7 milliards de dollars aux autorités canadiennes, dont 6,7 milliards au gouvernement du Québec. Ces sommes s'ajoutent aux compensations individuelles accordées à des milliers de fumeurs ayant participé à 2 actions collectives au Québec qui dépassent les 4 milliards de dollars. En août 2025, le gouvernement a reçu un premier versement de 1,7 milliard de dollars. Des règlements d'une telle ampleur ne sont pas courants, concède le ministère des Finances. Cela représente en effet un impact important sur les finances publiques. Où investir l'argent? Qu'adviendra-t-il des 5 milliards de dollars supplémentaires que le Québec récoltera dans le cadre du règlement? On l'ignore. Le gouvernement n'a pas publiquement annoncé ce qu'il fera avec les sommes reçues, indique Jacques Gauthier, directeur général de l'organisme, qui a piloté l'une des 2 actions collectives à l'origine du règlement, le Conseil québécois sur le tabac et la santé. Jusqu'à présent, ces sommes ont été déposées dans le Fonds consolidé du revenu, ce qui signifie qu'elles peuvent servir à payer n'importe quelle dépense gouvernementale. Or, aux yeux de la Société canadienne du cancer, il s'agit d'une opportunité historique de réinvestir dans la lutte anti-tabac. On préfère beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant, fait valoir l'analyste principal Robert Cunningham. Il y a encore 12% de la population qui fume. Il y a 13 000 morts chaque année. Et en plus, on a ce nouveau problème de vapotage parmi les adolescents. La nouvelle génération commence à devenir dépendante à la nicotine à cause de la cigarette électronique. L'organisme n'a pas de demande chiffrée, mais souhaite qu'une proportion importante des sommes issues du règlement y soit consacrée. Mais il espère surtout que des investissements seront prévus plusieurs années d'avance, car le reste des sommes du règlement sera versé sur 20 ans, à coût d'environ 245 millions de dollars par année. Ce montant représente tout de même plus de 11 fois les investissements annuels de Québec dans la lutte contre le tabagisme, soit 21,5 millions de dollars. Dans ce contexte, plaide M. Cunningham, c'est possible pour Québec de planifier une stratégie renforcée avec des revenus qui vont arriver chaque année. Le Conseil québécois sur le tabac et la santé, de son côté, réclame carrément que la totalité des sommes recueillies par l'État aille dans la lutte au tabagisme et à ses conséquences. « On veut des engagements fermes », plaide M. Gauthier. La base de l'action collective, c'était pour indemniser les victimes. En toute logique, l'argent que recueillent les gouvernements devrait être investi dans le grand secteur de la dépendance parce que la démarche a été lancée pour ça. Des sommes issues des nouvelles ventes. De son côté, le ministère québécois des Finances avance qu'une incertitude importante subsiste sur la somme due et sa période de recouvrement, puisque celle-ci dépend des revenus des cigarettiers canadiens, peut-on lire dans les comptes publics. Ainsi, paradoxalement, plus leurs ventes seront élevées, plus l'argent rentrera vite dans les coffres du gouvernement. Le règlement stipule que les compagnies de tabac canadiennes verseront 85 % de leurs bénéfices au gouvernement au cours des 5 premières années, 80 % pour les années 6 à 10, et ainsi de suite. Et si le montant a été si élevé l'an dernier, c'est parce qu'il provenait des revenus gelés pendant que la cause était entendue devant les tribunaux. La Société canadienne du cancer n'a pas fait beaucoup de bruit autour de l'utilisation de ces sommes ces derniers mois parce que l'argent a été remis après le dépôt du budget, explique M. Cunningham. La Cour supérieure de l'Ontario a approuvé l'entente le 6 mars 2025. C'était trop tard pour influencer les budgets des provinces de 2025. Les yeux de l'analyste sont donc tournés vers le prochain budget québécois, prévu au printemps 2026. Même si les sommes en cause semblent considérables, elles demeurent nettement inférieures aux coûts engendrés par le tabagisme. Le ministère des Finances rappelle que le Québec réclamait aux compagnies de tabac plus de 60 milliards de dollars pour recouvrer les coûts des soins de santé liés au tabagisme depuis le début des années 1970, soit depuis l'instauration du régime québécois d'assurance maladie, ainsi que les dépenses prévues d'ici 2030. Quelque 863 500 Québécois, soit 12 % de la population de la province, se disaient fumeurs en 2024, selon les données de Statistique Canada. Le dossier en sept temps. 1998. Deux demandes d'action collective sont déposées au nom des fumeurs québécois. 2005. La Cour supérieure du Québec autorise l'exercice de ses recours en justice. 2012. Le procès contre les cigarettiers commence devant la justice québécoise. 2015. Les compagnies de tabac sont condamnées à payer plus de 15 milliards de dollars en dommages à près de 100 000 fumeurs et ex-fumeurs québécois. 2019. La Cour de l'Ontario autorise Imperial Tobacco, Rothman Benson & Hedges et GTI McDonald à se mettre sous la protection de la loi canadienne sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. 2024. Les cigarettiers canadiens signent un plan d'arrangement avec leurs créanciers. 2025. Un premier versement de 1,7 milliard de dollars en dommages est envoyé au gouvernement du Québec. C'était l'argent du tabac à la rescousse des finances publiques du Québec. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 8 janvier 2026 dans Le Devoir.
Se rendre au travail en bateau. Un texte de Charline Caro, paru le 4 novembre 2025 dans le magazine Urbania. Boucherville, 8 heures, un jour de semaine. Sur le quai municipal, une dizaine de personnes patientent en file devant un bateau amarré sur le fleuve Saint-Laurent. Ça prendrait un abri bateau-bus, plaisante le capitaine qui accueille ses passagers dans le froid matinal. Munis de leur vélo, de leur sac de travail ou d'une boîte à lunch, les habitants de la rive sud montent à bord du Navarc Faucon Millennium et s'installent sur les bancs. Derrière les vitres, le soleil finit de se lever au-dessus de l'eau. Après les consignes de sécurité d'usage, le bateau largue les amarres. Les passagers lisent, scrollent ou regardent le paysage, bercés par les flots et le bruit du moteur. Dans 30 minutes, ils débarqueront au vieux port de Montréal. Ce bateau fait partie des 6 navettes fluviales qui relient le centre-ville de Montréal à différents arrondissements de l'île et villes de la rive sud comme Pointe-aux-Trembles, Mercier, Longueuil ou Varennes. Le service a été lancé en 2019 par l'entreprise Navarc en partenariat avec l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM. La saison s'échelonne de mai à octobre avec une fréquence d'une navette aux 45 minutes durant les heures de pointe. Bien moins connu que le métro ou le bus, les voyageurs ont pourtant besoin d'une simple carte opus pour monter à bord de ces bateaux. Un métro fluvial. Sur les trajets du matin, on retrouve surtout des travailleurs comme Vincent, la vingtaine, qui est employé dans une banque. Lorsqu'il a vu qu'un bateau se rendait au centre-ville, il a sauté sur l'occasion. Depuis, il embarque tous les jours sur la navette accompagné de son vélo, avec lequel il finit le trajet vers le Square Victoria. Assis près d'une fenêtre, Gilles est conseiller en ressources humaines dans une entreprise du Vieux-Port. Il prend la navette deux fois par jour, tous les jours, rapporte-t-il avec un sourire. C'est fiable et c'est toujours à l'heure, contrairement au trajet en voiture qu'il effectue le reste de l'année. Seule critique, il pourrait distribuer du café, dit-il en plaisantant à moitié, à l'intention du capitaine. Durant le reste de la journée, il y a des passagers en tout genre, témoigne Gilles Tanguay, le capitaine et directeur des opérations chez Navarc. Ça peut être des gens qui ont des rendez-vous en ville, qui vont magasiner ou qui vont prendre une crème glacée en famille. Le bateau peut être un vrai transport collectif, soutient le capitaine. Si t'habites à Pointe-aux-Trembles et que tu vas au CHUM, t'es bien mieux de prendre le bateau plutôt que ta voiture. Au total, 541 000 passagers ont emprunté les navettes fluviales de l'ARTM en 2025, un record d'achalandage contre 462 000 passagers en 2024. Reconnecté avec le fleuve. Nous, on n'a rien inventé, me dit Gilles Tanguay, tandis que le bateau longe le parc national des îles de Boucherville. Il cite New York, Boston et Amsterdam, qui ont déjà leur réseau de transport fluvial. On fait juste reproduire ça, appuie-t-il. Ce qui est inédit, c'est plutôt de replacer le fleuve Saint-Laurent au cœur de notre quotidien. Les gens oublient que Montréal est là à cause du fleuve, soulève le capitaine, qui rappelle que le Québec s'est développé le long du Saint-Laurent. Avant, c'était ça, l'autoroute. À travers les navettes fluviales, Navarc veut permettre aux voyageurs de délaisser un peu les vraies autoroutes au profit d'un moyen de transport moins polluant, plus rapide et plus agréable. Pas de trafic. Certains passagers l'ont bien compris. Je sauve 6 à 7 heures de transport par semaine en prenant la navette plutôt que la voiture ou l'autobus, estime Hugo, qui réside à Pointe-aux-Trembles. Ce fonctionnaire prend la navette tous les jours depuis 4 ans pour se rendre à son bureau du Vieux-Port. Le bateau, c'est mon moment zen du matin, sans trafic, apprécie-t-il. Pour sa collègue Lucie, c'est un moyen d'éviter d'être jam-pack à tous les soirs sur le pont Champlain. C'est un trajet tellement plus tranquille et rapide, se réjouit-elle. Le bateau est une bouffée d'air frais pour les résidents de l'Est, où les transports en commun sont moins développés que dans les arrondissements centraux. Pas de métro, moins de bus et plus de trafic. Ça fait 30 ans qu'ils nous promettent mer et eau pour les transports en commun. Puis un jour, le bateau est arrivé. C'était extraordinaire, se souvient Daniel en route vers son cabinet dentaire du centre-ville. On n'a pas de feu rouge ni de cône orange, s'amuse le capitaine Gilles Tanguay, qui est fier d'offrir un moyen de transport toujours à l'heure. Au début, dit-il, les responsables politiques ne croyaient pas en la fiabilité de ces navettes. On s'est battu pour démontrer qu'on l'était, malgré des problèmes mécaniques, des matelots malades et même une tempête de neige. Un trajet agréable. Le bateau longe désormais les rives de Longueuil avant de poursuivre sa trajectoire vers l'île Sainte-Hélène. La majorité des passagers sont assis dans la cabine chauffante du bateau, mais certains bravent le froid sur le pont, cheveux au vent. J'aime bien écouter ma musique et regarder le paysage pendant le trajet, confie Vincent, emmitouflé dans son anorak. C'est quand même plus agréable. On voit les levers et les couchers de soleil sur le fleuve, rapporte Stéphanie. Ça me donne une énergie que je n'ai pas dans les transports réguliers. C'est aussi sur le plan humain que le bateau est plus chaleureux que le métro. Les gens sont toujours les mêmes et on finit par jaser avec eux sur les trajets du soir, raconte Lucie. À l'embarquement à Boucherville, les passagers étaient nombreux à saluer les membres de l'équipage. Mais, comme toute bonne chose, le bateau a une fin. En 2025, les navettes fluviales ont arrêté leur service au 31 octobre. Les clients comptent les dodos avant la fin du bateau, assure le capitaine, qui dit recevoir des cadeaux à la fin de la saison. Rien qu'à penser que ça se finit bientôt, je commence à être en dépression, regrette Lucie qui n'a aucune envie de se retrouver tassée dans le métro à nouveau. Le bateau passe alors sous le pont Jacques-Cartier, congestionné. Au loin, on aperçoit les tours du centre-ville et le Mont-Royal. Objectif hiver. Le prochain objectif, c'est d'étirer la saison jusqu'en décembre et de la reprendre en avril, expose Gilles Tanguay. Le seul enjeu, c'est le budget, alors que Navarc dépend des contrats gouvernementaux. Pour le froid, il suffira d'installer des abris bateau-bus, soutient le capitaine. Le bateau ralentit alors que nous apercevons les quais du Vieux-Port. Il est 8h30. Le temps a été respecté et le capitaine peut souffler. Les passagers débarquent en remerciant l'équipage et poursuivent leur trajet à pied ou en vélo vers le centre-ville. La journée peut alors commencer sur la terre ferme. C'était « Se rendre au travail en bateau », un texte de Charline Caro, paru le 4 novembre 2025 dans le magazine Urbania.